À nous la liberté. Pour mes 16 ans, mes parents me firent cadeau d'un vélo, un motobécane, une jolie machine bleue avec des garde-boues d'argent, et alors des ailes me poussèrent. Le séjour à Dolé-les-Bains m'avait donné l'envie d'ouvrir la cage dans laquelle j'étais enfermée depuis ma naissance. Je m'étais aperçue que je ne connaissais pas mon pays. Je m'étais aperçue que je ne connaissais de la pointe qu'un étroit quadrilatère. Comme je devenais de plus en plus rétive, mes parents comprirent qu'ils devaient me permettre de respirer un peu d'air. À 78 ans, mon père avait pratiquement perdu la vue. Si des fils invisibles le guidaient tant qu'il restait à l'intérieur de sa maison, une fois dehors, tout se brouillait. Il ne pouvait ni traverser les rues, ni trouver son chemin. Ma mère n'ayant aucune patience avec lui, il se réfugiait à Sarcelles, seul endroit où il se sentait bien, et, pareil à un soubaou, passait les jours sans changer de vêtements ni se laver. Ma mère, quant à elle, n'était plus la même. À la suite d'une mauvaise grippe, elle était devenue presque chauve et couvrait son front de maladroit postiche d'un noir d'encre qui contrastait avec son restant de cheveux poivre et sel. Sa piété avait atteint des extrêmes que la mort de Sandrino, moins d'un an plus tard, allait encore accentuer. Elle ne ratait ni messe d'aurore, ni grand-messe, ni messe basse, ni messe chantée, ni vêpres, ni rosaire, ni ténèbres, ni chemin de croix, ni mois de Marie. Elle faisait des neuvaines, des pénitences, des jeûnes, roulait les grains de son chapelet, de son rosaire, prenait la confession, la communion. Quand elle n'était pas occupée à ses dévotions, elle se disputait avec moi. Pour un oui, pour un non, pour un non, pour un oui. Je ne me rappelle plus ce qui causait ces querelles constantes. Je me rappelle seulement que j'avais toujours le dernier mot. Je la lacérais avec mes coups de langue, et elle finissait immanquablement par fondre en larmes en bégayant.
Tu es une vipère.
Hélas, le sentiment d'ivresse de mes 10 ans avait disparu. Ses larmes étaient devenues un spectacle quotidien et banal qui, du coup, ne retenait plus mon attention. Mes premières années avaient été ensoleillées par la présence de mes frères et sœurs, secrètement en fronde contre mes parents. Mon adolescence avait la couleur d'une fin de vie. Je me retrouvais face à 2 vieux corps dont je ne comprenais pas les humeurs. Dans notre maison régnait une atmosphère de veillée funèbre. Le 2e étage avait été condamné. Portes et fenêtres clouées puisque personne n'y habitait plus. J'errais misérablement à travers une enfilade de pièces vides. La chambre de Thérèse, celle de Sandrino. Je feuilletais des livres couverts de poussière sur les étagères. J'ouvrais des penderies où traînaient encore de vieux linges. Je m'asseyais sur des lits aux sommiers défoncés. C'était comme si je rôdais dans un cimetière pour me ressouvenir de ceux que j'avais perdus. À présent, Sandrino venait d'être admis à l'hôpital de la Salpêtrière. Ma mère se persuadait que sa maladie était bénigne, mais elle en devinait l'issue. Elle n'avait pas la force de se rendre en France pour le voir, et sa pensée le tuait. Thérèse, elle, se vengeait. Elle adressait de rares et courtes lettres. Elle s'était mariée à un étudiant en médecine africain, lui-même fils d'un médecin fort connu dans son pays. Pourtant, mes parents, si sensibles au prestige, n'avaient pas apprécié. D'abord parce que depuis l'enfance, ils n'appréciaient rien de ce que faisait Thérèse. Ensuite, parce que l'Afrique est trop loin, de l'autre côté de la terre. Ma mère parlait d'ingratitude et d'égoïsme. Elle n'avait même pas pris la peine de disposer sur le piano les photographies d'Aminata, pourtant sa première petite fille. À 15 ans, je me regardais dans la glace et me trouvais laide. Laide à pleurer. Au bout d'un corps en goule sans fin, une figure triste et fermée. Les yeux à peine fendus, les cheveux peu fournis et mal coiffés. Les dents d'un bonheur dont je ne voyais pas l'amorce. Seule parure, une peau de velours que l'acné n'osait pas attaquer. Aucun garçon ne tournait plus la tête de mon côté, ce qui me chagrinait, car j'avais commencé d'apprécier les beaux mâles. Gilbert Driscoll s'était métamorphosé en un bellâtre coiffé à l'embusqué qui paradait ses gamines dans le quartier. Je n'avais pas plus d'amis que d'admirateurs, Yvelise ayant quitté l'école afin de travailler pour son père. Nous ne nous fréquentions plus et ma mère mal parlait, affirmant qu'elle prenait des hommes et récolterait bientôt un ventre. Au lycée où j'étais plus impertinente que jamais, Professeurs et élèves avaient peur de moi. Esselée, j'affûtais comme des flèches des épigrammes que je lançais à la volée contre tous. Comme je m'apprêtais à passer mon deuxième bac avec un an d'avance, je paraissais l'incarnation de l'intelligence couplée avec la méchanceté. Une fois que j'eus mon motobécane, je n'eus plus besoin de personne. Je ne m'occupais plus de ma mauvaise réputation. Je pédalais. Je m'aventurais bientôt en dehors de la pointe. Je découvris les côtes basses et vaseuses du vieux bourg de Mornalo, à moitié recouverte par l'eau de mer. La mangrove, peuplée d'échassiers tout de blanc vêtus. Je poussai dans une autre direction vers le bas du fort. Émerveillement! Je n'avais jamais admiré les hautes falaises calcaires ciselées de lapiers littoraux et le sable d'or. En fait de plage, je ne connaissais que celle de Viard, avec son sable volcanique, endeuillé comme les ongles d'un pied mal lavé. 3 ou 4 fois pendant les grandes vacances, nous y passions la journée. Ma mère, affublée d'un ensemble fait main par Jeanne Repentir, sa couturière, mon père, portant des caleçons longs, mais dénudant impudiquement les poils blancs de son torse. Une servante, louée à Petit-Bourg pour la saison, réchauffait le colombo sur un feu allumé entre 4 pierres, et nous pique-niquions sous les amandiers pays. Parfois, un natif natal rôdait dans les parages et lorgnait ce tableau familial avec curiosité. Je restais des heures, n'en croyant pas mes yeux, allongée sur le sable à grimacer sous la brûlure du soleil. Malgré mon envie, je ne plongeais pas dans ce grand bleu. Certes, Sandrino m'avait appris à nager, un peu à la manière des chiens, mais je n'avais pas de maillot de bain. Cet article vestimentaire n'apparaîtrait que fort tardivement dans ma garde-robe, et j'étais trop grande pour entrer dans la mer en culotte petit bateau comme autrefois. Après le bas du fort, je m'enhardis et pédalai jusqu'au gosier. J'avais déjà connaissance de Virginia Woolf et de sa promenade au phare. Si je n'inventais plus d'histoire, je compensais en lisant voracement tout ce qui me tombait sous la main. Aussi, je fixais l'îlet, largué dans la mer à quelques encablures de la côte. Je le transfigurais en objet littéraire, intersection du rêve et du désir. Une fois en peinant, je me rendis jusqu'à Sainte-Anne, en ce temps-là paisible commune, ignorant le tourisme. Je me laissai tomber sur le bord de mer. Assis en tailleur à côté de moi, sans s'occuper de ma mine peu commune, les pêcheurs blaguaient en ravaudant leurs filets. Les revendeuses offraient à leur pratique des creilles de tanche et de grand gueule. Des enfants noirs comme du goudron se baignaient tout nus. Je pris sommeil, la bouche ouverte, et ne rouvris les yeux qu'au serein. Autour de moi, la plage était déserte, la marée haute. D'habitude, je m'efforçais de rentrer à la pointe avant la nuit. C'était la première fois que je laissais la noirceur tomber sur moi en traître. J'avais peur. Peur de la route tout en courbe. Peur des formes des maisons soudain métamorphosées en guiablesses. Des arbres menaçants, des bancs de nuages au bord déchiquetés. Alors je filai comme une folle, mes genoux touchant mon menton, aplati sur mon guidon. Et sans que je comprenne pourquoi, ma vitesse me monta à la tête. Elle me rendit libre de toute la liberté dont j'allais bientôt jouir. D'ici 1 an, je quitterai la Guadeloupe, moi qui ne m'étais jamais séparée de mes parents pour plus de 2 semaines. Cette perspective m'exaltait et me terrifiait. Qu'allais-je étudier? Je ne me sentais aucune vocation. Mes professeurs me destinaient à l'Hippocagne, aux grandes écoles, c'est-à-dire que je retrouverais le lycée Fénelon. Cela revenait à quitter une prison pour une autre. Quand même, j'entrevoyais, au-delà de la geôle qu'on me préparait, des portes par lesquelles je pourrais me glisser. Quand, hors d'haleine, j'arrivai à la rue Alexandre-Isaac, ma mère me guettait du salon. Elle commença ses imprécations. Qu'est-ce que j'avais à courir comme une femme folle sous le soleil? Est-ce que je n'étais pas assez laide et assez noire comme cela? Je ressemblais à une Congo. Si c'est un homme que je cherchais, je perdais ma peine. Je passai sur elle sans la regarder et montai m'enfermer dans ma chambre. Elle continua à babiller. Au bout d'un moment, essoufflée, elle se tut, et à son tour monta au premier, avec des difficultés infinies, car elle était de plus en plus percluse avec cette arthrose qu'elle m'a léguée. Je l'entendis cogner au meuble, chercher sa place dans son lit qui craquait comme un canot qui prend la mer. Sous les couleurs trompeuses de la pitié, tout l'amour que je lui portais reflua vers mon cœur et manqua m'étouffer. J'entrai sans frapper dans sa chambre, ce qui était défendu. Assise dans le mitan du lit, elle était adossée à une pile d'oreillers, car elle se plaignait d'étouffement la nuit. Son livre de prière était ouvert devant elle. Elle avait ôté ses postiches et son crâne était dénudé par endroits. Elle était vieille et seule. Mon père était à Sarcelles depuis le début de la semaine. Seule et vieille. Je grimpais sur son lit comme du temps où j'étais petite, où rien ne pouvait m'en empêcher, même les plus sévères interdictions. Je la serrais dans mes bras, fort, fort, et la couvris de baisers. Brusquement, comme à un signal, nous nous mîmes à pleurer. Sur quoi ? Sur le bien-aimé Sandrino qui se mourait au loin ? Sur la fin de mon enfance ? Sur la fin d'une certaine forme de vie, d'un certain bonheur ? Je glissai la main entre ses seins qui avaient allaité 8 enfants, à présent inutiles, flétris, et je passai toute la nuit, elle agrippée à moi, moi roulée en boule contre son flanc, dans son odeur d'âge et d'arnica, dans sa chaleur. C'est cette étreinte-là dont je veux garder le souvenir.